Bonus. La contagion animale. Elles sont de plus en plus nombreuses en France et dans le monde, les associations et personnalités du PAF à défendre la cause animale. De L214 à Émeric Caron, en passant par Franz-Olivier Gisbert, tous revendiquent le droit à la dignité des animaux. Comme il est frappant en effet de voir combien les animaux dits de « bonne compagnie » paraissent humains. À tel point que nous endimanchons nos gentils toutous. Lançons sur Internet des top 10 des look-alike canins. L'idée est ici de trouver des points communs entre le visage d'un people et celui d'un chien. Ou tentons de traduire en instantané, à travers des projets fous du type Blowlingual, leurs aboiements en notre langue humaine. Le comble de l'anthropomorphisme égocentrique. 30 millions d'amis. C'est vrai que les ressemblances interespèces, autant comportementales que biologiques, sont à bien des égards frappantes. Ainsi partageons-nous, aussi surprenant que cela puisse paraître, les mêmes vices. Il apparaît par exemple que les humains ne sont pas les seules créatures qui souffrent de problèmes d'alcoolémie ou de toxicomanie. Prenez les chevaux, qui mangent des mauvaises herbes hallucinogènes, et les mouflons, qui raffolent de lichen aux puissantes propriétés psychédéliques. Ou encore les éléphants que l'on voit occasionnellement tituber dans la savane africaine après s'être gavé de fruits du prunier d'Afrique, le fameux Marula Tree en anglais. Ces beaux fruits jaunes de la taille d'une pomme qui fermentent au soleil contiennent de l'éthanol. Les singes, eux aussi, auraient été observés en état d'ébriété après avoir siroté du vin de palme issu de la fermentation naturelle de la sève de palmier raffia. Même les dauphins se drogueraient, en cherchant volontairement, comme le révèle un documentaire surprenant de la BBC, à absorber de petites doses d'une toxine, plus précisément une neurotoxine mortelle, la tétrodotoxine, relâchée par le fameux fugu, le poisson-globe empoisonné dont raffolent les Japonais, lorsqu'il se sent menacé. Heureusement, nous avons autre chose que le vice en commun avec nos amis les bêtes, du moins avec certaines espèces. Nous sommes par exemple doués de facultés intellectuelles et intuitives indéniables. J'ai écrit il y a presque 10 ans un livre intitulé « La poulpe attitude », que j'ai déjà évoqué, dans lequel j'expliquais à quel point les céphalopodes font partie des invertébrés les plus intelligents du règne animal sous-marin, capables de performances mentales extraordinaires, dotés d'une mémoire à court terme et long terme, et d'une pleine conscience. Ils utilisent des outils, apprennent par l'observation, sont sensibles à la douleur et sont capables de prendre des décisions intuitives, ce dont il faudrait s'inspirer. Des sons presque humains. D'autres espèces que l'homme sont capables de communiquer de manière codifiée avec leurs congénères. On pense ici au chant des baleines, ces fameux sons hypnotiques et répétitifs émis par les cétacés. Cette famille de mammifères marins comptait dans ses rangs un véritable surdoué en la matière, baptisé Nock, un beluga, baleine blanche, capable, selon une équipe de chercheurs de la National Marine Mammal Foundation, dirigée par le biologiste Sam Ridgway, d'imiter spontanément la voix humaine, tant dans le rythme que dans la fréquence du signal sonore. Ce cas est unique en son genre, car les cétacés n'utilisent pas leur larynx pour produire des sons. Ils s'expriment par leur conduit nasal. Et parce que le chant ordinaire de la baleine blanche est bien plus aigu que la voix de l'homme. Nock était, lui, capable de descendre de plusieurs octaves, parvenant ainsi à imiter la voix de ses soigneurs, avec qui il avait des contacts réguliers, une prouesse vocale qui demandait à l'animal beaucoup d'efforts et des ajustements musculaires loin d'être faciles, selon Sam Ridgway. On pense aussi aux primates, qui ont développé des compétences linguistiques étonnantes. Par exemple, certaines vocalises émises par le gélada, un grand singe vivant sur les hauts plateaux d'Érythrée et en Éthiopie, ressemblent à s'y méprendre à des gémissements humains. Ces sons, obtenus en claquant des lèvres, ce qui correspondrait à l'ouverture et à la fermeture de la bouche chez un homme, pourraient être les précurseurs du langage humain. Il est en effet troublant d'observer que les vibrations produites ont un rythme, nombre de claquements de bouche par seconde, compris entre 6 Hz et 9 Hz, proche du rythme de parole d'un humain, avec ses pauses et ses silences. La similarité sonore est telle que lorsque l'on se trouve au milieu d'un groupe de gélada, on peut avoir l'impression d'entendre des personnes parler comme à la terrasse d'un café. L'homme n'est d'ailleurs pas le seul à avoir un goût prononcé pour la socialisation. Même le chat, que l'on penserait solitaire, indépendant et auto-centré sur lui-même, préfère interagir avec les humains, plutôt que de manger un repas à base de thon, de jouer avec sa pelote de laine préférée ou de renifler de l'herbe à chat, dont l'odeur attire pourtant ses félins comme aucune autre. Toute une gamme d'émotions. Notez que la plupart des espèces animales, notamment les mammifères, ressentent des émotions. C'est ce qu'a démontré, scientifiquement parlant, Darwin dans son livre « L'expression des émotions chez l'homme et l'animal » 1872. Le naturaliste anglais avait observé bon nombre d'expressions émotionnelles, comme celle de la joie, de la souffrance, de la colère, de l'étonnement ou de la terreur, chez des animaux comme le chien, le chat, le cheval, les ruminants ou le singe, par exemple. Des années plus tard, dans la droite lignée des travaux du célèbre naturaliste anglais, l'éthologue Diane Fossey, le psychanalyste Jeffrey Moussaïef Masson, la biologiste Suzanne McCarthy ou encore la zoologue Joyce Poole, pour ne citer que quelques noms, ont témoigné de la réalité de la vie émotionnelle chez les mammifères. Les orques connaîtraient la peur, la colère, et saurait se montrer rancunière. Le chien pourrait ressentir et exprimer, en plus des émotions déjà citées, de la jalousie. Le poulpe extérioriserait sa colère, son angoisse, mais aussi sa curiosité et son désir, en faisant volontairement varier la couleur de sa peau. Selon certains chercheurs, comme le célèbre neuroscientifique Antonio Damasio, même des organismes très simples éprouveraient des émotions. L'empathie ne serait pas, elle non plus, l'apanage du genre humain. Une perruche ondulée, ou même une poule, à défaut d'avoir des dents, en serait pourvue. Les souris et les rats, dont les circuits cérébraux des émotions sont proches des nôtres, font preuve d'altruisme et sont sensibles à la détresse. Les cétacés viennent au secours d'un des leurs blessés, lorsqu'il a des difficultés à retourner à la surface pour respirer. De nombreux cas d'orques et de dauphins transportant leurs petits prématurément morts pendant une semaine ou plus après le drame dénotent l'incroyable attachement affectif dont ils font preuve. Enfin, je finirai par cet exemple, nos cousins les singes refuseraient d'activer un mécanisme automatique leur fournissant de la nourriture dès lors qu'ils réalisent qu'en le faisant, des chocs électriques sont administrés à leurs congénères. Ils seraient même capables de faire la grève de la faim plusieurs jours. Le célèbre primatologue Franz de Waal, l'auteur de l'expérience que je viens de vous décrire, déclarait il y a quelques années dans la presse française « Je pense que l'empathie est apparue dans l'évolution avant l'arrivée des primates. Elle est caractéristique de tous les mammifères et elle découle des soins maternels. Lorsque des petits expriment une émotion, qu'ils sont en danger ou qu'ils ont faim, la femelle doit réagir immédiatement. Sinon, les petits meurent. C'est ainsi que l'empathie a commencé. Ça explique aussi pourquoi l'empathie est une caractéristique plus féminine que masculine. Si les animaux ont des émotions qu'ils peuvent de surcroît exprimer, et qui plus est, s'ils sont doués d'empathie, cela signifie que toutes les conditions sont a priori réunies pour que le phénomène de contagion émotionnelle puisse s'opérer. De fait, celle-ci a été observée chez des rongeurs, des primates, des oiseaux, des cochons, des chiens, etc. Elle est, comme chez l'homme, à la base de la survie. Cela n'est plus à démontrer. La question qui se pose et qui m'intéresse ici est la suivante. Cette contagion émotionnelle peut-elle être interespèce? Des vidéos circulent sur le net, attestant, du moins à l'image, de l'affection que certains animaux se portent en dépit de leurs différences d'espèce, s'agissant quelquefois même d'un prédateur et de sa proie habituelle, comme une lionne et un bébé élan. Cela ne constitue pas une preuve en soi de l'existence de ce type de contagion, mais une piste encourageante, qui vise à étudier l'éventualité d'une contagion émotionnelle entre l'homme et l'animal, que j'appellerai ici la contagion manimale, en hommage à Manimal, une célèbre série télévisée américaine des années 1980. L'animal le plus dangereux d'Afrique. Pour enquêter sur cette question de la contagion manimale, j'ai d'abord interrogé Natacha Calestrémé, qui, en plus d'être journaliste et romancière, est la réalisatrice de 31 documentaires animaliers, dont « Les héros de la nature », une collection pour laquelle elle a notamment reçu le trophée MIF Science du meilleur film scientifique et le prix Engagement Planète Avenir du Sénat. En tant que réalisatrice de documentaires, j'ai consacré mes premières années à filmer la vie sauvage. Crocodiles, guépards, chauves-souris, lémuriens ou ornithorynques, j'ai beaucoup appris de ces univers. Ces expériences m'ont permis de porter un regard différent sur les écosystèmes qui nous entourent. Et plus encore, j'ai découvert qu'une certaine interaction était possible entre le monde sauvage et les hommes. Transmettre et recevoir une émotion d'un animal, l'impensable est envisageable, à condition d'en avoir envie. La première fois que Natacha Calestrémé raconte s'être posé la question d'une possible transmission d'émotions entre des animaux et des hommes, c'est au large des Féroé, en pleine mer du Nord, où elle avait rejoint Paul Watson, ardent défenseur du monde marin qui venait empêcher un rituel sanglant. Le grind. Une coutume barbare qui incite les habitants de cette région à massacrer les globicéphales, cousins du dauphin, en leur tranchant la tête dans un but uniquement festif. Alors que la mer semble complètement vide, apparaît une baleine de mink accompagnée par deux baleineaux qui se mettent à jouer autour du bateau. « Je m'interroge, » dit-elle. « Que se dégage-t-il de notre bateau, pourtant peint en noir, pour qu'ils aient eu envie de nous rejoindre ?» Quelle émotion leur avons-nous transmise malgré nous pour qu'ils comprennent que nous ne sommes pas des pêcheurs? Notre bateau a la taille d'un baleinier. Il fallait bien admettre que notre souhait de voir le monde marin, ceux pour qui nous nous battions, s'était propagé tout autour de nous. Ces trois baleines l'avaient perçu, au point d'avoir décidé de se montrer et de jouer avec nous. Mais les expériences suivantes seront encore plus fortes. « Ça se passe en Ouganda », raconte-t-elle, où elle est venue avec Gérard Sergent, son caméraman, tourner un film documentaire sur Hans Klingel, un homme qui protège les hippopotames, les animaux considérés comme les plus dangereux d'Afrique. L'hippopotame est responsable de 5 fois plus de morts que le lion, précise-t-elle. Elle a bien étudié ses mœurs. Le mâle se rassure en délimitant autour de lui un territoire invisible. Chaque espèce qui franchit les démarcations de cette zone est passible d'être repoussée violemment. Mais comme les excréments du boulimique herbivore sont très prisés par les poissons, les pêcheurs savent depuis la nuit des temps que pour de belles prises, il faut approcher les hippopotames. L'ennui est que ces hommes ne savent pas nager. Lorsque l'animal repousse la barque, les pêcheurs tombent à l'eau et se noient. C'est un accident malheureusement très courant. La situation se complique avec les femelles qui ont horreur que leurs petits prennent peur. Très souvent, les mamans hippopotames et leur progéniture se cachent derrière des roseaux. Le corps enfoui sous l'eau, ils évitent les brûlures du soleil autant que les regards. Ces groupes d'hippopotames sont quasiment invisibles et c'est bien là le problème. Lorsqu'une femme vient laver son linge dans la rivière à proximité d'une nurserie de petits hippopotames, l'une des femelles va charger l'intruse et la couper en deux, grâce à ses immenses canines. En fait, l'hippopotame déteste être surpris. Alors qu'ils roulent à bord de leur 4x4 pour atteindre le campement où vit Hans Klingel, longeant un lac, Gérard et elle s'arrêtent. À 20 mètres de nous, 3 hippopotames dorment à fleur d'eau. Malgré l'enthousiasme de cette première rencontre et l'envie de pousser des cris de joie, nous chuchotons pour ne pas les effrayer. Leur attitude semble placide. Je suis sereine, heureuse. La caméra est prête à l'arrière du véhicule. Gérard pose le trépied en dehors de la voiture, avance d'1 mètre et instantanément, sans même y réfléchir, je lui dis de ne pas aller plus loin. Les mammifères nous ont vus. Ils ne sont pas surpris, nous ne risquons rien, mais c'est à eux que je pense. Il insiste pour faire quelques pas de plus. Si tu avances, nous serons dans leur zone d'inconfort et ils plongeront, dis-je alors que je ne connais de ces animaux que ce que j'en ai lu dans les livres. Gérard, aussi têtu que moi, persiste. 50 cm, c'est tout, et ça me permet d'éviter des herbes qui me gênent. Je reste sur ma position et lui recommande de ne pas bouger, mais il avance imperceptiblement. Les 3 hippopotames plongent et disparaissent à jamais. Quelque chose m'a permis de percevoir l'état émotionnel de ces hippopotames. S'agit-il d'une intuition? De la perception d'un détail invisible? Je n'en sais rien. Une émotion qui émane de ces animaux m'a touché. Les jours qui suivent, Lors d'une journée d'affût où l'objectif est de filmer les mâles solitaires afin de montrer l'existence de leur territoire individuel et découvrir les groupes de femelles avec leurs petits, cette contagion émotionnelle se confirme. Pendant 4 heures, installés sans bouger à l'ombre d'un acacia, mais bien en vue des animaux pour ne pas les surprendre, ils attendent sans que rien ne se passe. Tout à coup, j'ai une certitude. Je chuchote à Gérard. La 5e femelle à gauche du rocher va sortir de l'eau et son petit va la suivre. Filme-les en plan serré. J'ignore d'où me vient cette évidence. La femelle sort en effet de l'eau, bientôt suivie par son petit. Il se dirige sans effort vers un autre endroit du lac et passe non loin de nous sans même nous considérer. La situation est irréelle. J'ai perçu l'intention de la femelle hippopotame, sensation que je suis pourtant incapable de deviner dans la vie de tous les jours auprès des personnes qui me sont chères. Lorsque le petit et sa mère disparaissent dans les eaux boueuses, Gérard se tourne vers moi et m'interroge. « Comment tu as compris qu'ils allaient sortir ?» Je n'en ai pas la moindre idée, mais visiblement, un canal vient de s'ouvrir entre les mastodontes et moi. Une communication au-delà des mots. Quelques jours plus tard, Hans Klingel et sa femme Ute conduisent Gérard et Natacha sur un site d'Ouganda où les hippopotames vivent en pleine forêt. Ils suivent une piste dans la brousse quand ils stoppent brutalement. Des éléphants. Le troupeau est énorme, ils sont une 40aine. S'exclame Hans, surpris car les guerres tribales et la dictature d'Idi Amin Dada ont réduit les populations d'éléphants à peau de chagrin. Aussitôt enthousiasmé, elle lui demande s'ils peuvent faire un détour pour les filmer. Hans acquiesce et explique que le mieux pour les approcher est de leur laisser le choix en se postant loin devant eux, dans leur direction. Les éléphants vont percevoir votre présence. S'ils ont été chassés par d'autres hommes, ou s'ils n'ont pas envie d'aller à votre rencontre, ils vont vous contourner ou faire demi-tour. Dans ce cas, il ne faut pas insister, car ils peuvent vous réduire en bouillie, et la voiture n'offrira aucune résistance à leurs assauts. Si, par contre, ils décident que vous valez le coup, ils viendront jusqu'à vous et passeront à vos côtés comme si de rien n'était. Natacha raconte la suite. Lentement et inexorablement, le troupeau avance vers nous. À chaque mètre qui les rapproche de nous, mon cœur accélère un peu plus. Au moment où je constate qu'ils ne sont plus qu'à 30 mètres, j'ai le sentiment de ne plus respirer. Le temps s'est arrêté. C'est alors que je réalise que le groupe d'éléphants est lui aussi immobile. 2 matriarches positionnées à gauche et à droite du troupeau nous observent, l'air de nous jauger. Celle de gauche bouge soudain la tête de bas en haut, comme pour nous saluer. Ce point de vue anthropomorphique est idiot, mais c'est ainsi que je vis l'instant. Je suis submergé par l'émotion. Les joues ruisselantes de larmes j'oscille à mon tour la tête et fais comme elle, en guise de réponse. La seconde matriarche en fait alors autant. Et c'est comme un signal. Le groupe de pachydermes reprend sa marche et avance vers nous. J'ai devant moi le plus beau des mammifères. L'Afrique vient de nous souhaiter la bienvenue. Je me tourne vers Gérard, il pleure lui aussi. Et pourtant c'est un dur à cuire. Les éléphantaux ont compris qu'il n'y avait pas de danger et se mettent à gambader et à jouer autour de notre voiture. Ils vont ainsi rester 20 minutes autour de nous avant de passer à nos côtés, jusqu'à frôler le véhicule. J'ai souvent repensé à cette expérience. Il s'est établi une sorte d'échange d'informations entre les éléphants et nous. Une inquiétude et un questionnement de leur part, suivi par la transmission de pensées que nous serions respectueux et que nous ne leur ferions pas de mal. C'est la perception de cette confiance réciproque qui nous a émus aux larmes. Nous sommes repartis en voiture, muets et sous le choc, avec la certitude que chacun d'entre nous venait de vivre un moment exceptionnel, celui d'avoir réussi à communiquer avec ces éléphants. Une émotion transmise au-delà des mots. Je réaliserai bien plus tard avec le recul qu'en mettant le pied sur le sol africain, mon enveloppe corporelle s'est comme dispersée. Tous mes sens sont au service des espèces que nous rencontrons. Humains, animaux et arbres y compris. Sans crainte ni souci, avec le seul désir de rencontrer des univers différents, mes sens ne fonctionnent plus pour moi. Et si la contagion émotionnelle, c'était s'oublier un peu. Dans le respect des espèces vivantes. À Bornéo, Natacha va pourtant vivre une expérience de transfert d'émotions avec un animal encore plus incroyable. Auprès des orangs-outans, nos plus proches cousins avec les chimpanzés et les gorilles. 97% de gènes en commun avec l'homme. Elle a décidé de leur consacrer un tournage dédié à la Canadienne Birute Galdikas, qui consacre sa vie à arracher ses grands singes roux au marché noir, à les soigner avant de les libérer dans une des forêts appartenant à la Fondation. Avec Bruno Vienne, son caméraman, et trois guides d'Ayak, elle s'est enfoncée au cœur de la jungle. Soudain, un Dayak pointe le doigt en silence vers la cime des arbres, à 50 mètres devant nous. 6 orangs-outans. Ouf, la marche n'a pas été vaine. Il m'est arrivé si souvent de repartir bredouille. Bruno connaît son métier. Il sait les comportements que nous recherchons et je le laisse à la caméra tandis que je m'assieds en retrait, sur un tronc d'arbre couché. Et soudain, un bruit. Je tourne la tête, à droite, à gauche. Rien. À nouveau un bruit de brindilles que l'on casse. Je lève la tête. Et là, juste au-dessus de moi, à 15 mètres du sol, agrippé à un arbre, un orang-outan m'observe. Il est seul. Les autres sont loin, tout juste captés par la longue focale de notre caméra. Je baisse instantanément les yeux. Les primates, comme nombre d'animaux, ne supportent pas la confrontation du regard. Je ne réfléchis plus et je me prends à rêver. Je t'en supplie, viens à ma rencontre. Descends de ton arbre, j'ai tellement envie de te voir. Une minute à fixer mes bottes lorsque je sens sa présence sur mon côté gauche. Mon cœur explose de bonheur. Il se risque à quitter son arbre et pose délicatement un pied à terre. Sur le plan de mes émotions, c'est l'euphorie. Je continue à l'encourager en pensée. N'aie pas peur, c'est juste une rencontre. J'en ai tant rêvé. Il passe lentement devant moi et s'arrête à ma droite. J'entr'ouvre à nouveau les yeux. C'est un sub-adulte, un adolescent de 7-8 ans environ. Alors l'impensable se produit. Il s'arme d'un bâton, pousse dessus comme on le ferait d'une canne et grimpe sur mes genoux. Un Dayak, lui aussi surpris par la réaction du singe, a la présence d'esprit de prendre 3 photos avec l'appareil de Bruno. Elles sont légèrement floues, mais elles montrent mon bonheur. Le rose de mes joues confirme cette émotion ressentie par tous les amoureux. Il m'a choisi. C'est magnifique. L'orang-outan passe sa main sur mes cheveux. J'ai le temps de l'entourer de mes bras. Puis il s'échappe et disparaît. Le contact n'a duré que 10 secondes. Mais il m'a bouleversé. Ce singe n'est pas venu chercher de nourriture. Il a bravé sa peur des hommes pour répondre à mon souhait le plus cher, établir un contact. Et une fois encore, je réalise que cette contagion émotionnelle a été possible parce que j'ai laissé l'animal décider à ma place. Du premier instant, au moment où il est sur mes genoux, il a eu le choix. Nous ne l'avons plus revu. Et si les photos n'existaient pas, je n'y croirais pas. Depuis, je pense que la contagion émotionnelle est possible lorsqu'on considère les espèces animales et végétales à égalité avec l'homme. Nous sommes tous des êtres, sans notion d'importance de l'une par rapport à l'autre. Lorsque vous arrivez dans un univers sauvage, que vous vous installez sans faire de bruit, dans le respect de la vie alentour, sans même arracher une herbe, la nature tout entière semble frémir de surprise. Un homme qui ne s'impose pas, voilà qui est surprenant. La communication peut alors s'établir, au-delà des mots. La contagion émotionnelle naît dans le respect de toutes les espèces vivantes. Chimpanzé dans la brume. Guillaume de Zecache, docteur en sciences cognitives de l'université Pierre et Marie Curie et actuellement Newton International Fellow de la prestigieuse British Academy, m'a lui livré son témoignage quand il était chercheur à la station biologique de Budongo, en Ouganda, et travaillait dans l'équipe de primatologie de Klaus Zuperbühler, Université de Neuchâtel, Suisse. Ses travaux de recherche portaient notamment sur les comportements d'alarme et de détresse, les réactions individuelles et collectives au danger chez le chimpanzé. Il nous explique d'abord d'où vient son intérêt pour ce sujet. En 2010, tout frais sorti d'un master de sciences cognitives, je m'étais passionné pour le phénomène de contagion émotionnelle. L'un de mes directeurs de mémoire m'avait parlé de ses souvenirs du 4 septembre 1958. Ce jour-là, De Gaulle présentait la nouvelle constitution place de la République à Paris, où de violentes charges de police avaient semé la panique parmi les contre-manifestants. J'avais aussi en tête toutes ces scènes de panique vues dans de nombreux films, notamment dans le classique de Sergei Eisenstein, le cuirassé Potemkin. L'on y voit les soldats du tsar tirer au fusil et charger une foule de civils, provoquant un sauve-qui-peut général, des piétinements et une formidable panique. Des questions me hantaient. Comment les émotions pouvaient-elles ainsi se répandre dans une foule? Comment des individus, loin des tirs, pouvaient-ils en venir à paniquer eux aussi, sans pourtant avoir vu ou entendu ce qui effrayait les autres? Comment, enfin, pouvait-on être commandé par les émotions des autres? Cette capacité des émotions à boycotter tout contrôle cognitif me fascinait. Ces considérations donnèrent lieu à différentes petites expériences. J'ai longtemps songé à élargir ces questions au rapport entre les hommes et les autres animaux, identifier la contagion émotionnelle chez d'autres espèces, et également comprendre comment les émotions pouvaient se balader entre des individus appartenant à des espèces bien distinctes. Un jour de février 2014, poursuit-il, alors que j'observais Quira, une mère chimpanzée, et sa petite famille se reposer à l'ombre d'un arbre à figues, je fus surpris chez eux par un soudain et micro-mouvement de panique. Sans un bruit, chacun se précipita dans l'arbre, à 1 ou 2 mètres seulement du sol. Tout juste de quoi se protéger d'une menace qui semblait se profiler dans l'herbe haute. Le petit dernier, Kaya, 7 mois, qui jouait tranquillement avec les nombreuses plantes qui l'entouraient, fut interrompu par sa mère qui le saisit brusquement. La vue de la petite famille silencieuse mais décidément alertée provoqua chez Sam, mon assistant, et moi, une brève mais certaine anxiété. Que s'était-il passé pour les voir ainsi effrayés? On passa quelques minutes à chercher. Si nous n'avons pas trouvé l'objet de la menace, je repensais à mon ancien sujet, la contagion émotionnelle, et j'observais une nouvelle fois sa puissance et sa quasi-automaticité à l'œuvre. Qu'est-ce qui avait pu provoquer chez Guillaume de l'anxiété à la vue de l'effroi de la petite famille de Quera? Il semblerait, d'après mes propres observations, que ni les expressions faciales des chimpanzés, ni leurs comportements vocaux, malgré la proximité phylogénétique avec l'homme, il y a 6 à 8 millions d'années vivait un ancêtre commun aux chimpanzés et aux hommes, ne m'aient réellement influencé. Pourquoi? Parce que pour la plupart des êtres humains, il est difficile de reconnaître les émotions, comme la peur, sur le visage de nos cousins les chimpanzés. Pourtant, leurs expressions faciales sont proches des nôtres, mais ne vous laissez pas berner. Elles n'ont pas la même signification émotionnelle. Quand ces derniers flippent, ils sourient. Ainsi, vous conseillerais-je de ne pas prendre un signal de soumission, l'expression faciale accompagnant le cri de l'agressé qui dit à l'agresseur qu'il en a assez, pour un joli sourire. Idem concernant les expressions vocales. Là encore, certains sons portent à confusion. Les chimpanzés utiliseraient vraisemblablement des « hou », un son assez doux produit lorsqu'ils sont surpris ou apeurés après avoir détecté une menace. Pas franchement de quoi induire en vous de l'angoisse et vous faire sursauter. Après élimination, et à mon humble avis, les mouvements du corps sont à même d'expliquer ce qui ce jour-là déclencha une contagion émotionnelle interespèce. On le sait depuis les travaux sur l'attachement de l'éthologue John Bowlby. La fuite et la recherche de confort sont les principales réponses à la menace chez l'humain. Et ces réponses semblent partagées par l'ensemble des mammifères sociaux. Ces mouvements amples du corps qui accompagnent le retrait, la protection des parties sensibles du corps et la fuite sont relativement prototypiques. Ils pourraient bien être les vecteurs les plus puissants de l'émotion entre membres de différentes espèces, lorsque le vocal et le facial ne suffisent pas, car trop dissimilaires entre deux espèces bien distinctes. Enfin, dans la forêt humide de Budongo, les dangers des chimpanzés sont bien souvent les dangers de l'homme. Les plus petits des serpents peuvent vous mordre mortellement, et les charges des cochons sauvages vous transpercer l'abdomen. La fuite soudaine d'un chimpanzé a de bonnes chances de causer chez vous un sentiment d'anxiété. Deux éléments semblent donc fondamentaux dans la contagion interespèce. La présence de signaux corporels assez semblables pour constituer un répertoire commun aux deux espèces et un répertoire commun de dangers et de menaces. Il y a une dernière question que se pose Guillaume. Si la peur des chimpanzés peut nous contaminer, la nôtre peut-elle se communiquer à eux? J'avoue ne pas avoir de réponse claire à cette interrogation. Mais il y a peu de doute que cela ne puisse également arriver. Après tout, nous craignons les mêmes choses, et notre fuite peut largement encourager la leur. L'amour est dans le pré. La dernière personne que j'ai interrogée, connue pour avoir du caractère et dire ce qu'elle pense, ce qui suscite régulièrement des polémiques, ne cache pas qu'elle préfère l'animal à l'homme. C'est Brigitte Lahaie. Depuis de nombreuses années, explique-t-elle, je vis entourée de chats, chevaux et chiens. Mais j'ai aussi eu d'autres relations avec d'autres bêtes plus ou moins étranges. Serpents, tigres, singes, corneilles, ânes, boucs, poissons, etc. Chaque espèce m'a apporté des émotions différentes. Ce qui me plaît le plus, sans doute, dans cette relation avec l'animal, c'est que cela m'apprend sur moi-même. Comme si avec eux, nous ne pouvions pas tricher. L'image qu'ils nous renvoient de nous-mêmes devient un miroir grossissant. Nous croyons totalement maîtriser nos émotions, ne rien laisser transpirer, et si on peut parfois jouer le jeu avec l'un de nos semblables, l'animal, lui, ne s'y trompera pas. Sa fascination pour les animaux remonte à l'enfance. Pourtant, rien ne m'y disposait particulièrement puisque mes parents sont des citadins. J'ai longuement réfléchi aux raisons qui me poussaient si petite à vouloir m'entourer de bêtes à plumes ou à poils. D'une sensibilité à fleur de peau, je me sentais incomprise. Or, l'animal a le même effet que l'art. Il permet de sublimer des émotions qui sont enfouies et qui ne peuvent pas se communiquer avec d'autres humains. Si aujourd'hui je parviens mieux à gérer mes rapports humains, c'est tout de même en compagnie des animaux que je me sens le mieux en relation. Cette blessure enfantine est devenue un atout lorsque je me suis intéressé aux sciences humaines. En écoutant les autres, je perçois leurs émotions les plus profondes, et ils se sentent compris. C'est un début de guérison. Enfant, je recueillais des oisillons tombés du nid. Mon frère élevait des serpents et des batraciens. J'ai même eu deux poussins pour copains dans ma chambre, jusqu'au jour où ma mère décida de les donner à une amie qui tenait une ferme parce que cela devenait assez ingérable dans un appartement. Elle m'avait promis que les poussins finiraient des jours heureux à la campagne. Je doute fort que cette promesse ait été tenue. Mais, à l'époque, je l'ai cru. Une petite fille ne doute pas de la parole de sa maman. Surtout quand cette dernière a une personnalité bien trempée. Plus tard, dans ma maison en Normandie, j'en ai à nouveau eu. Ma première poule m'était si proche que le soir, elle attendait que j'aille la coucher dans son poulailler. Le lendemain, toute joyeuse, elle m'accueillait quand je sortais de la maison et nous allions ensemble à l'écurie pour nourrir les chevaux. Combien de fois ai-je failli la renverser quand je galopais sur ma carrière alors qu'elle tentait de suivre mon cheval? Comment prétendre qu'une poule est stupide? Nous jugeons bien trop souvent de l'intelligence de l'animal en fonction de nos comportements ou de ce qui nous arrange. Plus tard, quand j'ai déménagé dans une propriété plus proche de Paris, j'ai embarqué mes deux poules. Le portail était cassé, mais elles ne sont jamais sorties sur la route. Elles pouvaient picorer jusqu'à l'extrême bord de l'allée, mais ne franchissaient pas cette frontière invisible. Malheureusement, quelques semaines plus tard, un renard, sans doute, mit fin à notre complicité. L'idée de les enfermer ne me plaisait pas, et je n'en ai donc pas repris, pour l'instant du moins. Voici une anecdote que nous livre Brigitte sur la confiance que peut nous faire un animal à plumes. J'allais promener mes chiennes dog allemand et je montais dans le paddock situé derrière la maison, qui mène à la forêt. Tout à coup, je les ai vues toutes les trois s'exciter. Je me suis approché, il y avait dans l'herbe une corneille blessée qui se défendait tant bien que mal avec son bec face à cette meute. Elle ne l'agressait pas réellement, mais leur jeu n'était pas du goût de la pauvre bête apeurée. Je me suis baissé pour la sauver, malgré tout un peu inquiète par son bec grand ouvert, mais aussitôt, sans hésiter, avec ses griffes, elle s'est posée sur mes doigts. Je sentais la pression de ses serres et sans le moindre signe de défense, elle s'est laissée déposer de l'autre côté de la barrière, à l'abri des chiennes. Instinctivement, elle s'était sentie en confiance. Je suis ensuite parti promener mes chiennes. En revenant, j'ai voulu la revoir, encore émue par ce moment précieux que nous avions pu échanger. Elle se trouvait un peu plus loin, dans le sous-bois. J'ai voulu la reprendre, afin de lui offrir gîte et couvert à l'abri des prédateurs. Aussitôt, elle m'a attaqué avec son bec. Je n'ai pas insisté, admiratif de son comportement. Autant au départ, elle n'avait pas le choix. Il lui fallait me faire confiance pour sauver sa peau. Mais à présent, me faire confiance pouvait lui ôter sa liberté. Les animaux sont une excellente école de confiance. Ils savent mieux que nous mettre le curseur au bon endroit, entre trop de peur ou trop de confiance. Le meilleur ami de l'homme. C'est sans nul doute avec le chien que la confiance s'établit le plus rapidement, dit-elle. J'aurais tant d'histoires à vous raconter entre mes chiennes et moi, des moments si intenses. Mieux que personne, elles sentent mes peines, mes joies, mes colères aussi. Combien d'histoires ont été racontées sur ces meilleurs amis de l'homme? Cette amitié entre un chien et l'humain est si pure, sans doute parce qu'elle n'est marquée que par l'amour. Dans chaque autre relation, même avec un chat, il y aura toujours un peu de haine. L'amour entre humains est toujours ambivalent. Même les plus belles histoires d'amour ont leur zone d'ombre. Tandis qu'avec le chien, il n'y a que la lumière. Le chien est capable de faire le lien entre deux choses et d'en déduire ce qui va se passer. Par exemple, vous prenez tel sac, cela indique que vous allez faire des courses. Vous éteignez la télévision, cela signifie que vous montez vous coucher. Quant à nos émotions, l'intonation de notre voix, mais sans doute aussi notre position du corps, lui permettent de deviner mieux que quiconque ce que nous ressentons. Vous venez d'apprendre une bonne nouvelle, il est là, joyeux comme vous. Malheureuse, combien de fois l'une de mes chiennes est venue lécher mes larmes ou se blottir contre moi pour, de tout son poids, me faire sentir qu'elle était là. Celle qui fut sans doute le plus en relation avec mon humeur s'appelait Diva, et sûre que c'en était une. Cette grande dogue bringée devinait tout. Jeune, elle a vécu avec moi dans un appartement à Neuilly. Quand je partais en tournage, Chantal, une excellente amie, venait habiter chez moi pour la garder. Le jour de mon retour, dès le matin, elle était toute excitée. Nous n'avons jamais su quels étaient les indices qui lui permettaient de le deviner. Mais elle ne s'est jamais trompée. Ma première chienne berger allemand avait cette même perception. À l'époque, je vivais encore chez ma mère. Durant mon absence, Lola restait dans ma chambre et ne descendait qu'au moment où je m'apprêtais à rentrer de classe. La chienne se couchait sur le palier, toute frétillante, indiquant ainsi à ma mère que je ne tarderais guère à arriver. L'événement le plus frappant dont je me souvienne, ce fut le jour où elle monta avec la carte postale écrite de ma main dans sa gueule, que le facteur avait glissée sous la porte d'entrée. J'étais parti en vacances depuis 10 jours. Ce jour-là, elle a monté l'escalier et déposé la carte devant ma mère en gémissant. Avait-elle reconnu mon odeur parmi les nombreuses odeurs de ceux qui avaient manipulé ce bout de carton? 6e sens? Nul ne le saura jamais, mais le chien a des perceptions incroyables. Pour terminer sur les chiens, voilà une anecdote plus coquine et légèrement indiscrète. La première chienne que nous avons eue, mon mari et moi, fut baptisée d'un nom prémonitoire. Sexy. Ce dog allemand arlequin était particulièrement exubérant et se mêlait de tout. Elle détient largement le record des bêtises. Nombre de portables, stylos, lunettes de soleil, livres et autres babioles ont été dévorés durant son existence. Mais venons-en à cette indiscrétion. Elle était autorisée à dormir sur un coussin dans la chambre quand nous nous retrouvions pour un moment d'intimité. Et dès que nous avions terminé, elle venait se blottir contre moi. Pas spécialement par jalousie, je dirais plutôt par besoin de partager ce moment d'extase que connaissent les amants après une rencontre réussie. Seulement, au fil du temps, elle percevait le moment crucial et finissait par venir me rejoindre juste un peu plus tôt. Ce qui aurait tout de même pu être un peu déstabilisant, mais au final cela nous amusait beaucoup. Depuis, autant dire que nos chiennes restent en dehors de la chambre, dans ces moments intimes. Brigitte Lahaye est une cavalière hors pair, qui a une bonne connaissance des chevaux. Avec le cheval, c'est encore autre chose. Il fait vraiment partie de l'inconscient collectif humain. Vous n'entendrez jamais quelqu'un dire qu'il n'aime pas le cheval. On peut en avoir peur, l'admirer, le vénérer, l'éviter, mais personne ne le déteste. Même ceux qui se sont retrouvés gravement blessés par un équidé ne gardent aucune rancune pour l'espèce. J'aime à dire que le cheval est un peu médium, dans le sens où il perçoit notre attitude bien plus vite que nous. En observant un cavalier et les réactions de son cheval, vous pouvez deviner ce que ressent l'homme. Bien sûr, notre niveau équestre a une influence certaine, mais sur leur dos, tout se joue surtout avec la partie basse du corps. Notre bassin est en quelque sorte la clé de voûte. Nous devons impérativement tenir notre cheval par le bassin, qui se trouve en arrière du centre de gravité du cheval. Chaque mouvement d'avant en arrière ou de report de poids d'une fesse à l'autre est ressenti par le cheval. Plus on est en communion avec lui, plus nous aurons passé des heures de complicité à le monter dans cet esprit, plus il y sera sensible. La selle ne sert qu'à notre confort. Cette capacité à se mouvoir au moindre déplacement de poids crée une communion subtile qui nous permet d'avancer ensemble. Nous regardons dans telle direction, et le couple se dirige vers l'endroit désiré. En somme, nous pensons, et il va. Il ne s'agit cependant pas d'une pensée intellectuelle, mais bien d'une pensée émotionnelle. Cette communication subtile avec un humain, même dans un rapport intime, n'est pas si simple à obtenir. Quant au langage, bien sûr, il va aider à une compréhension encore plus intéressante. Durant de nombreuses années, j'étais assez réfractaire à la technique, et je montais à cheval par instinct. Mes chevaux démarraient au galop par simple appel de langue et stoppaient sur place par un « oh » furtif. Pas de doute, les chevaux sont capables d'intégrer un grand nombre de mots, largement autant qu'un chien. Pour les miens, leur préféré est sans nul doute « susucre ». Quand ils l'entendent, quelle que soit leur occupation, leur grande tête majestueuse se dirige vers ma main. Si le cheval n'est pas si proche de l'homme, c'est sans doute parce qu'il ne vit pas dans la maison avec nous. Nous passons finalement beaucoup moins de temps avec eux qu'avec un chien. De même, il ne fait pas partie des prédateurs, mais bien des proies. Au départ, notre entente n'était pas évidente, et c'est ce qui la rend encore plus fabuleuse. Quand un cheval parvient à nous faire confiance, il nous donne tout. À condition, toutefois, qu'on le comprenne. Car lorsqu'il ne fait pas ce qu'on lui demande, la majeure partie du temps, c'est parce que nous ne nous sommes pas exprimés assez clairement. Au fond, pour communiquer sur le plan émotionnel, nul besoin d'un langage évolué. Par nos émotions justement exprimées et une écoute attentive du corps de l'autre, la communication véritable s'établit plus sûrement que par des longs discours. Les animaux m'ont appris ça, et je ne les en remercierai jamais assez. Que dit la science? Ces trois témoignages tendent à nous prouver que la contagion animale existe. Et des études viennent encore confirmer la réalité du phénomène, d'abord dans le sens homme-animal. Certaines recherches confirment par exemple ce que laisse suggérer le témoignage de Brigitte Lahaie. Les chiens exprimeraient de l'empathie envers d'autres espèces, dont l'homme. On a mesuré une hausse significative du niveau de cortisol, pour mémoire l'hormone du stress, chez des chiens qui entendaient pleurer un bébé. Et ces animaux semblent capables de faire la distinction entre différentes émotions, comme la joie ou la colère, exprimées sur un visage humain. Des résultats similaires ont d'ailleurs été observés chez les chevaux. Un chien déchiffre votre humeur à partir des expressions de votre visage et des intonations de votre voix. Le cerveau du canidé est en effet câblé pour intégrer deux sources d'informations sensorielles différentes, le son et l'image, émanant de l'humain, et d'aboutir, au bout d'un processus d'évaluation et de comparaison, à une perception cohérente de nos émotions. Et des chercheurs sont parvenus à démontrer que les émotions, surtout les négatives, exprimées à travers la voix d'un humain, pouvaient contaminer les chiens à qui on les faisait écouter. Des évidences de la contagion émotionnelle dans le sens inverse, à savoir de l'animal vers l'homme, existent aussi. Les animaux domestiques, tels le chien ou le chat, suscitent en nous d'authentiques émotions. Quand les propriétaires interagissent avec leur chien et leur chat, l'humain, comme l'animal, libère de l'ocytocine, réel baromètre chimique de l'amour chez les mammifères. Des neuroscientifiques ont mesuré les niveaux d'ocytocine chez les chats et les chiens après qu'ils ont joué avec leurs propriétaires, à l'aide d'échantillons de salive ou de sang prélevés chez l'homme et chez l'animal à différents moments, avant, pendant et après des séances de jeu. Résultat, la production d'ocytocine a augmenté chez les deux. La sécrétion de cette hormone chez l'homme équivaut alors à celle qui se produit lorsque nous voyons notre conjoint ou notre enfant. Les bénéfices à interagir avec les animaux, notamment de compagnie, sont nombreux. En leur présence, notre tension artérielle, les rythmes cardiaques et les niveaux de stress baissent, et notre bien-être émotionnel augmente. Il suffirait d'interagir à peine 5 minutes avec son chien pour se déstresser. J'ai pu le constater chez un couple d'amis que leur vie professionnelle trépidante usait peu à peu. Ils ont fini par prendre un chien et depuis, eux qui n'avaient pas une minute pour déjeuner, prennent aujourd'hui le temps de rentrer entre 12h et 2h pour le voir. Quelques instants à le câliner suffisent pour les remettre d'aplomb. Leur anxiolytique à 4 pattes, nommé canaille, a littéralement changé leur vie. Le chat, lui aussi, a des vertus thérapeutiques naturelles. Son ronronnement émettrait de basses fréquences, de 20 à 50 Hz, un son régulier, avec des harmoniques, qui permettrait à une chatte d'apaiser aussi bien son chaton apeuré qu'un être humain anxieux. Les basses fréquences sont en effet connues pour favoriser la production de sérotonine, hormone du bonheur. Ainsi, caresser l'animal et l'écouter ronronner relaxerait, abaisserait la tension artérielle, ralentirait la fréquence cardiaque, détendrait les muscles, entraînant un état de sérénité débouchant sur une phase de pré-sommeil. Cela boosterait même les défenses immunitaires. Ce n'est pas par hasard que de nombreux bars à chats ont ouvert au Japon et ailleurs, où des travailleurs, après une dure journée, viennent se détendre en sirotant un thé et en caressant de dociles chats. Le chat, un thérapeute au poil. Une chercheuse de l'université d'Indiana, Jessica Gall Myrick, a mené une étude auprès de 6795 personnes devant qui elle diffusait des vidéos de chats. Les visionnés induiraient des émotions positives. Nous ressentirions moins d'anxiété, d'ennui ou de tristesse. Le plaisir que les participants à cette étude éprouvaient alors dépassait la culpabilité qu'ils ressentaient à avoir repoussé des tâches qu'ils auraient dû accomplir au lieu de regarder ces vidéos. Les bienfaits de la zoothérapie. Au vu des nombreux bénéfices émotionnels à interagir avec des animaux de compagnie, est apparu un courant appelé zoothérapie, aussi connu sous le nom de faune-thérapie ou encore pet-therapy, autrement dit la thérapie par l'animal. Ainsi entend-on aujourd'hui parler, même en entreprise, de canithérapie, thérapie par les chiens, de ronron-thérapie, thérapie par les ronronnements des chats, d'ictiothérapie, thérapie par les poissons, ou plutôt, devrais-je dire, par les aquariums dans lesquels ils nagent, ou encore de delphinothérapie, thérapie par les dauphins. Parmi toutes ces zoothérapies, il en est une qui me semble particulièrement prometteuse, c'est l'équithérapie, ou équicoaching. Encadrée par des professionnels du développement personnel, elle utilise intelligemment quelques ressorts de la contagion émotionnelle. Ce type de thérapie, je l'ai testé à deux reprises, une demi-journée, avec des groupes de personnes différentes, la première fois dans un contexte pro, la seconde dans un contexte privé. Cela m'a permis de rencontrer Elisabeth de Sainte-Basile, qui m'a fait découvrir cette pratique, et Corinne Chausmy, son acolyte. Ces deux femmes ont une longue expérience dans l'accompagnement d'individus et d'équipes, et intègrent l'équicoaching dans leurs interventions depuis plus de 10 ans. Leur discours, en écho au témoignage de Brigitte Lahaye, nous invite à découvrir de plus près cette thérapie si fascinante. L'équicoaching. L'utilisation pédagogique du cheval, m'expliquent Corinne et Elisabeth, est connue aujourd'hui sous différentes appellations. Équicoaching, horse coaching, équithérapie, développement personnel assisté par le cheval. Il y a une 50aine d'années, une nouvelle façon d'éduquer les chevaux est née aux USA, avec les chuchoteurs, dont les plus connus sont aujourd'hui Monty Roberts, John Lyons, Pat Parelli et Andy Booth. Cette méthode s'est développée en France sous le nom d'équitation éthologique, sans rapport avec les éthologues qui sont des scientifiques. Dans cette mouvance, des thérapeutes et des consultants en entreprise l'ont intégrée à leur pratique. Ceci dans différents pays européens comme l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, les pays nordiques et plus récemment la France. Les applications thérapeutiques existent depuis longtemps dans le domaine du handicap et de l'autisme. Ce n'est que depuis une dizaine d'années que cette approche s'invite dans l'entreprise avec des exercices qui se déroulent pour la grande majorité à pied, comme celui de la longe invisible. En voici le principe. Nous proposons aux participants un premier exercice dans lequel celui-ci doit mener un cheval en longe, corde, sur un parcours. C'est déjà très révélateur du style de personnalité et de leadership de chacun. Dans un second temps, il refait le même parcours, mais doit obtenir cette fois-ci que le cheval le suive sans longe. Nous observons souvent alors un moment de flottement. Comment vais-je lui donner envie de me suivre sans aucune contrainte? Bien entendu, cette question était déjà d'actualité lors du premier exercice, car en vérité, ce n'est pas la longe qui nous permet de tracter 500 ou 600 kilos, mais le fait de lâcher cet emblème physique du pouvoir change la donne. À quoi se raccrocher alors? Le participant devra explorer de quoi est faite cette longe invisible, ce lien énergétique, vibratoire, qui va faire que, en tournant autour du cône, le cheval va lui emboîter le pas, ou bien suivre sa propre route. Ainsi, le cheval peut-il par exemple réagir quand son guide humain est parti dans ses pensées, ou qu'il s'est mis à douter de ses capacités. Son hésitation se reflète alors dans l'allure incertaine du cheval. Quelquefois même, le participant est si stressé et concentré, focalisé qu'il est sur son objectif, qu'il en a perdu son compagnon de route qui tout à coup bloque des quatre fers. Quand le cheval ne se comporte pas comme le participant souhaiterait qu'il le fasse, c'est que la personne est entrée dans des pensées et des émotions négatives. Une pensée négative ne vibre pas de la même manière qu'une pensée positive. Le cheval donnera un feedback immédiat et sans complaisance sur la qualité de cette connexion. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes confrontés à cette même difficulté de connexion subtile avec les autres. Il nous arrive parfois de nous dire « Celui-ci, je ne le sens vraiment pas ». À ce moment-là, nous sommes en lien avec l'invisible des émotions, ce que les chevaux perçoivent fortement. En leur présence, nous réapprenons souvent ce que nous savions faire petit. Les enfants sont en effet aussi compétents qu'un cheval. En grandissant, nous désapprenons. Comment réagissez-vous, par exemple, devant un enfant qui se cache derrière vous lorsque vous lui demandez de dire bonjour à un étranger? Peut-être bien que cet enfant sent, tel un cheval, que cette personne n'est pas tout à fait dans la bienveillance, malgré un masque de gentillesse. L'exercice précédent, sans longe, a d'autres intérêts, comme celui de déterminer quelle stratégie la personne va inconsciemment utiliser pour amener l'autre à faire ce qu'elle souhaite. La séduction? L'intimidation? La persuasion? La victimisation? Ces manipulations ne font pas partie du monde du cheval, sauf s'il a lui-même été victime de maltraitance humaine. Il n'y répond alors pas, et la personne se retrouve seule avec sa stratégie ainsi mise au grand jour. Sans parler de manipulation, l'interaction avec le cheval interroge les stratégies que nous mettons en place pour donner envie aux autres de nous suivre. En entreprise, par exemple, certains experts pensent qu'ils vont faire changer les gens en leur apportant des arguments rationnels. Ils cherchent à les convaincre qu'ils ont raison, et au fond, c'est assez directif, un peu comme certains cavaliers qui cherchent à imposer au cheval ce qu'ils désirent. Voici le témoignage à ce sujet d'un participant, un ingénieur chef de projet. Avec le cheval, j'ai pris conscience que pour guider, il faut laisser un espace de proposition et de liberté. Depuis, je demande plus aux autres leur avis. Je suis moins en frontal. Ce matin, j'ai fait une réunion avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Avant, je lui serais rentré dedans. Je lui aurais dit qu'il se trompait, car il n'était pas dans l'axe que je souhaitais. Cette fois-ci, je lui ai plutôt demandé « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Finalement, il a trouvé sa place, et moi aussi. Tu te connectes et tu trouves comment te mettre avec lui. Cela se situe à un niveau bien plus subtil, qui intègre l'émotionnel. Le cheval, décodeur et révélateur d'émotions ultra fiables. Animal de proie, dont la survie dépend de sa faculté à décoder instantanément son environnement, le cheval est doué d'une hypersensibilité, lui permettant de capter des signaux non-verbaux imperceptibles pour les humains. Continue Elisabeth et Corinne. Il est un véritable scanner. Rien de nos plus infimes mouvements intérieurs et extérieurs ne lui échappe. Il traverse notre masque social pour s'adresser à notre être profond, au-delà des apparences. Certains parlent même de facultés extrasensorielles. Dans les années 1900, Hans le Malin, un cheval prodige, attisa les controverses des experts et fut l'objet d'études particulièrement intéressantes. La conclusion en fut que le cheval détectait chez les expérimentateurs des signaux faibles qu'ils émettaient à leur insu pour indiquer la bonne réponse. Le cheval ne savait pas répondre si son interrogateur ne connaissait pas lui-même la réponse, ou s'il ne le voyait pas. Il faut comprendre que le cheval agit réellement comme une grande caisse de résonance émotionnelle, un amplificateur. Vu sa masse, la rapidité et l'ampleur de ses réactions, il nous tend un miroir et nous permet de prendre conscience de nos émotions. De plus, les chevaux possédant des entrailles plus importantes que les humains, ainsi qu'une plus grande surface de résonance, ils détectent fortement les fréquences vibratoires des émotions. Ils sont bien plus subtils que nous pour capter ce qui se joue en nous, notamment nos incohérences émotionnelles. Le cheval est un être sociable, curieux, qui aime jouer et apprendre. Et pas seulement avec ses congénères, s'il a été élevé au contact de l'homme. Il vient volontiers vers nous si nous interagissons avec lui de façon confortable, claire et plaisante. Nous entrons alors en connexion avec lui. La connexion est une notion un peu mystérieuse, proche sans doute des comportements de synchronie non-verbaux observés entre des interlocuteurs qui sont en empathie lors d'études expérimentales d'éthologie des communications. Ces comportements d'accordage des affects et des actions indiquent qu'un canal est créé entre deux entités, en l'occurrence ici entre l'homme et le cheval. Cette connexion permet d'échanger des affects, de se coordonner spontanément dans l'action, d'être en phase ou sur la même longueur d'onde, une expression qui devient palpable avec les chevaux. Tout est énergie autour de nous, et l'énergie est vibration. Le cheval et la personne se mettent à vibrer sur la même fréquence. C'est très puissant, tellement puissant que cela se ressent en tant qu'observateur à plusieurs mètres. En revanche, si le cheval se sent menacé, ou tout simplement si nous ne savons pas garder son attention, le cheval réagit par la fuite, physique ou mentale. Et dans les cas extrêmes, s'il se sent acculé, par l'agression. Gardez en tête que le cheval n'a pas de projet sur nous, ne juge pas, vit totalement au présent. Ce sont essentiellement ses sensations et ses émotions qui commandent ses réactions. Aptitude que nous autres, hommes civilisés, avons en partie oubliée. Que peut-il se passer lorsqu'un de nos stagiaires rencontre le cheval au cours d'un exercice? L'interaction qui s'établit révèle quel cerveau, rationnel ou émotionnel, réagit en premier. Soit la personne se coupe de ses émotions et se met à réfléchir, soit elle est envahie par ses émotions et ne parvient plus à structurer sa pensée. Dans les deux cas, ses comportements risquent d'être inefficaces et ne permettent pas d'instaurer une relation fluide avec le cheval. Développer son intelligence émotionnelle, c'est permettre aux deux cerveaux de travailler de concert. Civi. Voici maintenant, raconté par Corinne et Elisabeth, six histoires mettant en scène la contagion émotionnelle entre homme et cheval. Lorsque Céline, qui venait au manège travailler sa confiance en elle, s'est retrouvée à côté de ce si grand cheval, si impressionnant, elle s'est sentie comme paralysée. À son insu, son cerveau émotionnel l'a immédiatement ramenée 40 ans en arrière. Céline a été abusée sexuellement à l'âge de 4 ans et vit depuis avec ce stigmate. Son cerveau, pour l'aider à continuer à vivre, a encapsulé cette expérience traumatisante afin qu'elle ne la ressente plus consciemment, mais sans l'oublier. Face au cheval, elle a revécu la même décharge émotionnelle que face à son agresseur. Lui, si fort, et elle, si petite et vulnérable. La même émotion d'impuissance. Elle ne pouvait plus bouger. Elle a pu ainsi recontacter la situation traumatisante et surtout la dépasser. Il se trouve que Céline est chanteuse lyrique et qu'une grande puissance se dégage d'elle quand elle chante. Invitée à chanter face à cet animal qui l'impressionnait tant, elle a exhibé sa puissance vocale et le cheval en est resté subjugué. Céline s'est aperçue qu'elle pouvait être grande et puissante à côté de ce bel animal. L'émotion de peur et la sensation d'impuissance ont été remplacées petit à petit chez elle par l'émotion de joie et une sensation de force qui lui ont rendu toute sa confiance en elle. Sophie est une personne pleine d'énergie qui a de nombreuses responsabilités, fonctionne à 100 à l'heure et ne parvient plus à se relaxer. Son corps lui a donné quelques alertes, problèmes de peau, troubles digestifs, fatigue. Quand elle vient travailler avec Gitane, une jument très dynamique et sensible, et qu'elle la fait tourner au bout d'une longe autour du manège, elle la met très facilement au galop car elle sait bien appuyer sur l'accélérateur. Sophie sait aller vite. Mais les choses se compliquent lorsqu'elle cherche à l'arrêter. Pas moyen d'y parvenir, même en restant immobile au centre du rond. La contagion émotionnelle, l'effet miroir, joue ici à plein. Le cheval sent parfaitement où en est Sophie et s'est synchronisé sur sa fréquence cardiaque. Il lui renvoie une parfaite image d'elle. Sophie s'est rendue compte que lorsqu'elle se croyait calme, elle ne l'était en réalité pas du tout. En respirant profondément pendant 10 minutes, elle parvient à activer efficacement son propre frein et à revenir à un rythme cardiaque régulier et serein. Le cheval alors s'arrête immédiatement. Depuis qu'elle en a fait l'expérience, elle prend soin de s'accorder régulièrement des moments de tranquillité et de respiration. Et non seulement ses soucis de santé vont mieux, elle gère mieux sa vie professionnelle, mais elle s'est aperçue qu'elle crie moins contre ses enfants. Quand Victoria, maman au foyer de 3 jeunes enfants et qui gère en grande partie seule l'organisation complexe de sa famille, elle a une fille handicapée et son mari est souvent en déplacement professionnel, se résout à venir vivre une séance d'équi-coaching, elle se décrit ainsi. J'ai la sensation atroce de me trouver à bord d'un train lancé à grande vitesse. Je suis dedans et pourtant je n'ai pas de prise. il ne ralentit pas. Et je ne peux rien y faire. Ce train, je le sais, va droit dans le mur. Et je me sens incapable de l'arrêter. Elle est submergée par une émotion d'impuissance et une sensation d'épuisement. Pas question de lui demander de faire des exercices avec le cheval, car elle est déjà dans le faire, à longueur de journée. La consigne pour elle sera justement de ne rien faire. De rester disponible, en compagnie de deux chevaux et un petit poney. De simplement ressentir ce qui se passe avec eux et avec elle-même. C'est ce qu'elle fait. Et les chevaux vont et viennent dans le manège, en résonance avec ce qu'elle exprime. Jusqu'à un moment particulièrement fort, celui où elle s'écroule en pleurs dans le sable du manège. À ce moment précis, les trois chevaux viennent ensemble à elle et l'entourent, et le poney lui fait de grands câlins. Elle a lâché prise, arrêté d'être forte pour tout le monde, une façon de se remettre en contact avec la réalité de ses besoins, de ses limites et de ses émotions, et pu expérimenter que si elle lâchait, elle était tout de même entourée et aimée. C'est ce qu'elle a pu faire ensuite, en prenant des décisions pour réorganiser sa vie, de façon à être plus en phase avec ses propres besoins et ses aspirations. Serge, qui est entré dans un rond de longe pour un exercice de pilotage en liberté, a mis, après une rapide caresse, le cheval en mouvement de façon brusque. Celui-ci est monté vite en pression, partant au grand galop. Et quand Serge a essayé de le ralentir, ses tentatives n'ont fait que le stresser davantage, au point que c'est devenu dangereux, il a fallu intervenir. Mais quand on lui demande « Qu'as-tu ressenti ?», il répond « Rien de spécial. Je n'ai pas eu peur du tout. » Tandis que le cheval adoptait des comportements à risque, il réfléchissait, analysait, totalement coupé de ses émotions, ce qui l'empêchait de réagir de manière appropriée. Lorsque nous nous sentons en danger, nous laissons habituellement agir notre instinct pour fuir, agir sur le danger, le canaliser, attaquer. Son corps était totalement figé. Serge est formateur, et son équipe, présente au séminaire, a tout de suite fait des parallèles avec les difficultés qu'il rencontrait régulièrement avec ses participants. Très efficace pour transmettre des concepts, il est parfois démuni pour gérer les relations avec ses stagiaires et ne comprend pas toujours leurs réactions parce qu'il n'est pas en contact avec ses émotions, que le cheval avait su détecter tout en étant très perturbé par la discordance entre sa gestuelle et elle. Ils ont pu en discuter tranquillement ensemble. Robert vit régulièrement, dans sa vie personnelle et professionnelle, des incompréhensions avec son entourage qu'il ne comprend pas, car il se voit comme sociable et facile à vivre. Durant l'exercice fait avec le cheval, il affiche un large sourire, ce qui normalement signifie qu'il est content. Mais le cheval ne semble pas aussi content que lui. Il a même l'air plutôt inquiet. Du coup, l'exercice n'est pas fluide. Le cheval avance de manière irrégulière. Robert continue à afficher son large sourire, jusqu'à ce que le cheval se bloque et refuse de continuer. Robert reste alors perplexe. Il a pourtant tout fait pour rester calme et agréable au cheval. Que se passe-t-il? Généralement, face à un cheval, les personnes finissent par lâcher le cerveau pensant et laissent exprimer leur cerveau émotionnel. Leur corps s'exprime malgré eux. Le refus du cheval a pointé chez Robert plusieurs éléments. Robert n'a pas senti qu'au fond de lui-même, il avait peur. Il a remplacé l'émotion de peur par une imitation de la joie, en pensant que celle-ci était authentique. Le cheval a bien senti la dissonance émotionnelle. Grâce à cette expérience, Robert a pris conscience qu'il brouille les pistes. C'est compliqué pour les personnes de son entourage de comprendre ce qu'il ressent réellement derrière ses camouflages. D'où ses difficultés relationnelles. Des participants, comme Robert, qui ne sont finalement pas émotionnellement alignés avec eux-mêmes, il y en a beaucoup. Être aligné, c'est quand l'intention, la connexion affective avec l'autre et le langage non-verbal expriment le même message. Lorsque nous sommes alignés, nous avons un impact très fort, une force de conviction naturelle. Le cheval nous aide à le faire. L'objectif n'étant pas de rester aligné 24 heures sur 24, ce qui est très difficile, mais de savoir y retourner. Le cheval peut aussi aider les enfants en difficulté scolaire à se réconcilier avec l'envie d'apprendre, d'explorer, de s'ouvrir aux autres. Au contact du cheval, ils découvrent qu'ils sont capables de faire beaucoup plus de choses qu'ils ne le pensent. Camille, une petite fille de 11 ans, a ainsi été subjuguée de constater qu'elle était capable de faire marcher, trotter, galoper un cheval de 700 kilos. Et ce, sans même le toucher, juste par sa présence. En termes d'estime de soi, d'affirmation personnelle, de gestion de ses émotions, de capacité à prendre sa place, ce jour-là, Camille a fait un grand pas, ce qui s'est ressenti dans son rapport aux autres, copains, famille, et dans ses résultats scolaires. Unis comme un seul homme. Le dernier exemple que nous donnent Elisabeth et Corinne ne concerne pas une personne, mais une équipe tout entière. L'équicoaching, explique-t-elle, est aussi une pédagogie très pertinente pour développer une véritable synergie entre plusieurs personnes, au sens profond du terme. Agir ensemble pour atteindre un résultat supérieur à ce que chacun aurait pu faire individuellement. Cette équipe, appartenant à une grande entreprise, arrive pour se reconstruire après une année très difficile. Une partie de l'équipe a été licenciée, et ses départs ont été mal gérés par ceux qui restent, avec des rancœurs, des conflits, des incompréhensions. Il lui faut trouver une nouvelle façon de s'organiser et de fonctionner. Le séminaire, très fort émotionnellement, atteint son paroxysme lors de l'exercice d'équipe finale. La mission des participants est de piloter un cheval en liberté à travers un parcours d'obstacles, barres, cônes, en faisant en sorte que chacun trouve sa juste place. Flambeau, le cheval choisi, est plutôt gentil et calme, mais il a besoin de directives claires et fortes pour bouger dans le sens désiré. Le groupe s'organise autour du cheval. Il faut en prendre soin, décider qui le conduira, se positionner de part et d'autre de chaque obstacle pour le canaliser. Afin que chacun contribue au résultat final, plusieurs configurations sont essayées. Le cheval se prête gentiment à tous ses essais. C'est comme un ballet, et l'émotion est tangible rien qu'à les regarder. On y sent de la joie, du plaisir, du respect, de l'attention à l'autre, de l'exigence. Quand arrive le moment de réaliser le parcours, c'est le silence. Puis le groupe se met en route, et chacun joue sa partition. Les uns et les autres sont si connectés entre eux qu'un lien invisible semble les relier. C'est comme un seul corps qui se réajuste, se réarticule au fur et à mesure du parcours. Et quand le cheval, après avoir circulé autour des cônes, marché sans hésiter sur la bâche, enfilé le couloir tracé par les cordes, franchit l'obstacle final, il est accompagné par des cris de joie. Le bonheur de réussir ensemble est tangible. Tous, même Flambeau, communient dans une même émotion. Et quand, peu de temps après, le manager devra s'absenter plusieurs mois pour soigner une grave maladie, l'équipe saura s'organiser magnifiquement, en autogestion, pour gérer durant ce temps les affaires courantes et continuer à développer l'activité. Nous pourrions vous donner encore beaucoup d'exemples, concluent Elisabeth et Corinne, de ce que l'équicoaching peut émotionnellement apporter. Les chevaux nous connectent à notre état d'enfant, au plaisir de jouer, de découvrir, de bouger, de toucher. À chaque séminaire, ou même entre le début et la fin d'une session d'équicoaching, quelque chose de doux et de tendre transparaît chez nos participants. Les masques tombent. Une nouvelle qualité relationnelle se développe naturellement entre les personnes. C'est le baiser du cheval charmant qui réveille les consciences endormies et les fait reprendre contact avec leur enfant intérieur. Celui qui rêvait, celui qui avait des projets, celui qui allait instinctivement vers ce qui est bon pour lui. Les animaux ressentent des émotions à notre contact, nous en transmettent et nous aident à nous reconnecter à nous-mêmes. L'accepter ne nous rendrait-il pas plus humains?